Bonjour. Chaque semaine cet été, la librairie Mola vous propose de découvrir les coups de cœur des libraires. Des idées de livres pour tous les goûts et toutes les envies. Les lectures d'été Mola, c'est à chaque livre une nouvelle destination. Une nouvelle fois encore, c'est une semaine de recommandations qui vous attend. Et on commence tout de suite avec Sylvie, libraire au rayon littérature, qui nous présente son coup de cœur.
Cet été, on va partir sur les traces d'un écrivain de légende.
C'est en tout cas la promesse d'Adrien Bosque qui signe chez Stock l'invention de Tristan. Alors de quoi ça parle, Sylvie ?
Il était une fois un jeune écrivain américain qui s'appelle Tristan Egolf, avec un prénom prédestiné, qui a écrit un livre qui a été refusé partout, personne n'en veut. Et pourtant, c'est un livre fou, complètement démesuré, complètement désespéré, un peu à son image. Personne n'en veut de ce livre. Donc il se dit, bon, je tente le coup pour le coup, je m'en vais, je quitte l'Amérique et je vais en Europe. Il arrive à Paris et là, il fait une rencontre miraculeuse. Il rencontre la fille de Patrick Modiano, Marie. Et là, c'est le début d'un conte de fées. Il va devenir célèbre du jour au lendemain. Son livre va être traduit partout, hélas. Donc, comme dans toutes les légendes, il y a une malédiction. Et la malédiction, c'est qu'il n'atteindra jamais le sommet de ce premier livre. Et donc, au bout de quelques années, à 33 ans, il se suicide. Un jeune journaliste du New Yorker va se passionner pour l'histoire de Tristan Egolf. Il va lire ce livre, ça va rendre fou. Et donc, il va mener l'enquête sur ce jeune météore de la littérature. Et il va partir à la rencontre des gens qui l'ont croisé, ses amis, sa famille.
Et pourquoi vous avez choisi de nous parler de ce livre aujourd'hui ?
D'abord parce que l'histoire est complètement passionnante. C'est une véritable... C'est une tragédie. Et en même temps, c'est bouleversant, c'est passionnant. Et puis surtout, ça donne une envie folle de se replonger dans ce livre, Le Seigneur des Porcheries, qui était son chef-d'œuvre.
Merci Sylvie. Je suis maintenant avec Belinda, libraire au rayon littérature de poche. Belinda, quel est votre coup de cœur aujourd'hui ?
Alors, je viens pour vous présenter un livre qui oscille entre humour, poésie et science.
Ce livre, c'est Manhattan Project de Stefano Massini dans la collection de poche des éditions Bourgois. Alors, quelle est l'histoire ?
Nous suivons des physiciens juifs hongrois exilés aux États-Unis qui se lancent dans une course contre la montre pour mettre au point l'arme atomique avant Hitler. C'est un conte tragicomique empreint de malice et un récit historique profondément humain dans lequel Massini mêle comme personne science et poésie dans un texte éblouissant.
Pourquoi il faut le lire alors ?
Deux principales raisons. Tout d'abord, pour la plume de Stefano Massini, sa prose en vers libre donne un rythme si particulier à ses romans. C'est ici également une mise en scène très théâtrale qui rend ce roman unique. D'ailleurs, ce texte était à l'origine destiné à être joué sur les planches. Et enfin, les personnages de ce roman, qui sont très forts, et sont tous introduits par une phrase singulière quand ils s'expriment, ce qui nous permet de resituer en un clin d'œil chacun. Vous l'aurez compris, la précision des mots et de la narration est une merveille. Les comportements humains y sont parfois comparés aux réactions physiques des recherches scientifiques, ce qui nous donne l'impression de comprendre un peu mieux. Et surtout, l'auteur intègre un humour et une ironie qui font vraiment le sel de ce roman.
Merci, Belinda. Direction maintenant le rayon manga, avec Clara, qui nous présente son coup de cœur.
Entre cuisine et jardinage, cet été, on vit au rythme des saisons.
La cuisine de Tengu, c'est le volume 1 dont vous nous parlez, c'est signé Ai Tanaka aux éditions Le Lézard Noir. De quoi ça parle ?
On suit l'histoire de Om, jeune New-Yorkais de 14 ans qui découvre être un descendant d'une famille de Tengu. Conformément à la tradition, le jeune garçon va s'envoler pour une retraite d'un an auprès de son grand-frère Motoi, au cœur de la campagne japonaise. L'occasion pour lui de découvrir un nouveau mode de vie, loin du tumulte de la ville, et d'en apprendre plus sur son frère qu'il connaît peu.
Et pourquoi c'est un coup de cœur alors ?
Ce manga est une véritable ode à la nature. On apprend au fil des pages à cuisiner, vivre et travailler au rythme de la nature. Aux antipodes du monde moderne de ses technologies, ce mode de vie sain nous invite à repenser notre quotidien. Une lecture qui promet une évasion au milieu des champs et rizières, tout en découvrant la gastronomie et la culture japonaise.
Merci Clara. En face de moi maintenant, Adeline, libraire au rayon jeunesse. Alors Adeline, c'est quoi votre coup de cœur ?
Alors cet été, entre deux bains de mer, je vous propose d'emmener vos enfants dans une folle partie de ballon.
C'est en tout cas ce que propose Suzanne Strasser dans Attrape le ballon aux éditions Tourbillon. Alors, de quoi ça parle ?
Canard joue au ballon. Pfiou, bam, si, paf, splatch ! Le ballon rebondit encore et encore, jusqu'à ce qu'il aille heurter l'arbre qui va déranger Hibou. Loin de s'en émouvoir, celui-ci va au contraire aider Canard à partir à la recherche du ballon. Là, on continue, bim, bam, splash, pouf. Et cette fois-ci, on heurte Tekel. Eh bien, lui, c'est pareil. Il s'est fait taper par le ballon, mais il décide quand même de suivre ses nouveaux amis à la poursuite de celui-ci. Et s'ensuit un conte comme on les aime, en randonnée, où l'histoire se répète et où les enfants prendront plaisir à voir la petite bande s'agrandir encore et encore pour savoir où est passé le ballon.
Et donc, pourquoi c'est un coup de cœur ?
Moi, j'adore Suzanne Strasser, qui, en grandes illustrations, est capable de raconter tant de choses aux tout petits. Ça fourmille de détails, les couleurs sont éclatantes, on s'amuse, on rigole, et surtout, grâce aux onomatopées, les adultes vont prendre un plaisir fou à raconter cette histoire à voix haute. Il faut y mettre du cœur, de l'emphase, ça rendra la chose encore plus drôle. Et surtout, savoir qu'est-ce qui se passe à la fin, où donc est passé le ballon et qu'est-ce qu'on va faire avec.
Et tout ça, c'est dès 2 ans. Merci Adeline. J'ai en face de moi Roxane du rayon Polar. Vous nous présentez un thriller psychologique avec un concept très fort.
Oui, et si vous aviez la chance de remonter dans le temps pour empêcher votre fils de devenir un meurtrier ?
Ça s'appelle « Après minuit » aux éditions Pocket, c'est signé Gillian McAllister. Alors qu'est-ce que ça raconte ?
Alors que Jen attend son fils le soir presque à minuit qui rentre de soirée, elle le voit à travers la fenêtre poignarder un homme qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas pourquoi, qui est cet homme et pourquoi son fils le poignarde. Quand elle veut se rendre au commissariat le lendemain pour voir son fils qui a été arrêté, elle se rend compte qu'elle a remonté le temps d'un jour et elle comprend que c'est sa chance pour empêcher ce crime et comprendre pourquoi son fils l'a commis.
Pourquoi, selon vous, c'est un bon livre pour cet été ?
On connaît les thrillers psychologiques, on pense qu'on a déjà tout lu, on sait où ça va. Mais Après minuit, c'est vraiment plus que du thriller psychologique. C'est original, on est sur un livre à concept où petit à petit, on va remonter le temps avec Jen jusqu'à la racine du crime, des années avant, même avant la naissance de son fils. Au bout de 400 pages, on pense avoir la solution. Et en fait, dans les derniers chapitres, on va avoir rebondissement sur rebondissement, mais qui seront tout à fait plausibles.
Après minuit de Gillian McAllister, c'est chez Pocket. Merci Roxane. Direction maintenant le rayon BD. Avec vous, Mathilde, libraire au rayon BD manga. Alors, c'est quoi votre coup de cœur ?
Un récit touchant avec une bonne pointe de nostalgie.
Manouche, Manouche, de Joanne Géloui aux éditions Dargo. Alors, de quoi ça parle ?
Le temps d'un été, Antoine, jeune étudiant qui vit chez sa tante suite à la disparition récente de sa mère. Nous sommes l'été 84, retentit dans son Walkman des sons de Phil Collins, Laura Branigan, Cyndi Lauper ou encore Toto. Et Antoine passe son temps entre la maison de sa tante et les descentes en ville pour faire quelques courses à sa tante. C'est à cette occasion qu'il fait la rencontre de Dédé et de sa bande qui traînent leur ennui dans le bar du coin et la rue et qui n'hésitent pas à le chahuter au passage. Une bande qu'il croisera plusieurs fois au cours de cet été. Et c'est aussi durant cet été-ci que des gens du voyage viennent s'installer dans la région et avec en son sein l'intrigant Mélalo. Les habitants alentours sont surpris, effrayés, voire énervés, mais Antoine est curieux et cette nouvelle installation va le pousser à s'interroger sur différentes facettes de sa vie.
Et alors pourquoi c'est un coup de cœur ?
Dans l'ambiance d'une autre époque, une douce fiction estivale aux teintes pastel sur fond d'histoire filiale et d'émoi sentimentaux autour de l'introspection de ce jeune homme qui vit une époque charnière. Et c'est une bien belle bulle qui permet de s'évader.
Eh bien, merci beaucoup, Mathilde. Pour terminer cette semaine de recommandations, en face de moi, Pierre, libraire au rayon Pôle du Savoir.
Détendez-vous et profitez de cet été pour faire un tour du monde des écritures.
Champollion à la plage, les écritures du monde dans un transat, c'est signé Stéphanie Le Breton aux éditions Duno. Qu'est-ce que ça raconte, Pierre ?
C'est un essai qui traite des écritures à travers le monde et les époques sous deux dimensions principales. Une première dimension qui est plutôt historique, où l'autrice va vraiment revenir sur les raisons de la création d'une écriture, des raisons politiques, religieuses, économiques, pour ensuite aller vers le développement de cette écriture souvent en parallèle d'une civilisation qui va l'utiliser, pour finalement aborder sa possible disparition ou au contraire, pourquoi est-ce qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Donc, la deuxième dimension, elle est linguistique, elle est plus rarement abordée, mais c'est vraiment très intéressant. C'est la question du déchiffrement, des méthodes utilisées pour réussir à comprendre une écriture oubliée. Et pour cela, l'autrice utilise l'exemple de Champollion qui a déchiffré les hiéroglyphes en 1822.
Et alors pourquoi, selon vous, il faut le lire cet été ?
Il faut vraiment le lire cet été parce que c'est vraiment une invitation au voyage. Puisque lorsque l'on rentre dans un système d'écriture, c'est vraiment une porte ouverte vers la civilisation qu'il a utilisée. Par exemple, les sinogrammes, ça permet vraiment de comprendre la culture chinoise. Le livre permet aussi de nous rendre compte qu'il y a encore beaucoup d'écritures à déchiffrer. Des écritures que l'on ne comprend encore pas du tout, comme par exemple les glyphes mayas qu'on ne comprend pas bien, ou l'écriture rongo-rongo de l'île de Pâques. Et enfin, c'est un livre vraiment très bien vulgarisé par l'autrice et qui permet au grand public de se rendre compte que les écritures ne sont pas du tout figées, contrairement à ce que l'on pense, et que elles naissent, elles vont vivre, mais elles peuvent aussi mourir. Et donc, il faut vraiment continuer à les utiliser et surtout les protéger.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Des romans, un manga, une BD et même un livre pour enfants, eh bien, ce sont encore de belles recommandations à mettre dans son sac pour cet été. Rendez-vous la semaine prochaine pour entendre de nombreux conseils de vos libraires pour découvrir de nouvelles destinations de lecture.